suite dans les idées, Sylvain Bourmeau. Qu'il s'agisse du Conseil de l'Union Européenne ou d'un village au Soudan, d'un club d'amateurs de lecture ou du Sénat américain, de l'Organisation mondiale du commerce ou de l'Assemblée des chefs de clans islandais au Xe siècle, de l'autorisation de mise sur le marché d'un vaccin ou du Conseil de défense et de sécurité nationale, la décision collective s'observe partout et tout le temps ou presque. Mais contrairement à une acception trop courante, décider, ce n'est pas trancher. Décider, ce n'est pas choisir. Décider collectivement, nous dit Philippe Urfalino dans un essai majeur, décider ensemble, c'est arrêter la délibération et conférer du même coup un caractère obligatoire à la décision collective. Philippe Urfalino est aujourd'hui l'invité de la suite dans les idées. Il sera rejoint en seconde partie par Joris Lacoste qui nous parlera de la manière de décider quand on crée des spectacles vivants. Joris Lacoste, auquel le Festival d'automne cette année rend hommage à son projet qui est l'Encyclopédie de la Parole, un projet démarré il y a 10 ans par un premier spectacle qui était titré Parlement. Alors évidemment, les parlements, ce sont des lieux qui, entre autres lieux, occupent Philippe Urfalino dans ce livre qui paraît aux éditions du Seuil, Décider ensemble, la fabrique de l'obligation collective. Mais les parlements sont loin d'être les seuls lieux puisque, comme je le rappelais à l'instant, ça peut aussi bien être un club d'amateurs de lecture qui doit décider ensemble quelle pizza commander à la pizzeria du coin. Voilà le type de décision collective aussi variée et différente qui intéresse Philippe Urfalino dans ce livre. Philippe Urfalino, bonjour.
Bonjour Sylvain Bourmeau.
Vous êtes sociologue, vous êtes directeur de recherche au CNRS et directeur d'études à l'École des hautes études en sciences sociales. Vous avez travaillé d'abord sur la politique culturelle, vous avez travaillé entre autres choses aussi sur la santé, sur l'industrie du médicament. Mais ça fait déjà assez longtemps que vous travaillez sur ces questions de décision collective. Vous y travaillez en sociologue, en ayant produit un livre qu'on peut qualifier de théorie sociologique, mais qui est un livre qui me semble important parce que il se situe dans l'articulation qu'on peut faire entre cet héritage des sciences sociales et sa vitalité contemporaine, mais également un certain type de philosophie. Le livre doit en particulier beaucoup à une tradition qui est aujourd'hui incarnée par Vincent Descombes, Philippe Urfalino.
Oui, tout à fait. Et l'exigence d'articuler des savoirs sociologiques ou les connaissances de sciences sociales avec la philosophie, et plus précisément une philosophie d'action, et encore plus précisément celle de Vincent Descombes, ça vient très directement de la question de la décision. Il m'était apparu il y a déjà quelques années que nous avions du mal avec le concept de décision en sciences sociales, sauf si on l'identifiait seulement au choix, c'est-à-dire l'action de comparer des options au regard des objectifs poursuivis. On avait, en revanche, pour aller un peu plus loin, besoin d'un autre concept de décision, et cet autre concept de décision nécessitait une vision de l'action, une conception de l'action qu'on ne rencontrait pas en sciences sociales, et qu'on rencontrait, en revanche, dans une tradition de philosophie de l'action qui remonte à Aristote, revue par Wittgenstein, revue par Elisabeth Anscombe, et dont j'ai trouvé une formulation particulièrement claire et ajustée aux besoins des sciences sociales dans la philosophie de Vincent Descombes.
Alors ce travail de clarification, dont on sait qu'il est celui précieux de ce type de philosophie, vous le menez à propos de concepts comme celui de décision collective, de délibération collective. Vous consacrez toute la première partie du livre à faire en sorte qu'on y voit plus clair à propos de ces termes et de ces concepts.
Oui, tout à fait, parce que j'étais obligé de faire ça. Donc ça peut avoir un air scolaire, mais en fait, c'était indispensable. Et bien sûr, cela se fait pas de manière spéculative. Je le fais en accumulant, en présentant toute une série d'études de cas qui montrent comment Pourquoi, par exemple, on a besoin de faire la différence entre une décision collective et une négociation, entre une décision collective et ce qu'on appelle un partage équitable, c'est-à-dire la manière dont on peut se partager de manière acceptable un bien. Donc il y a toute une série de petites différenciations qu'il faut faire pour aboutir à un concept de décision collective. J'ai un peu procédé, si vous voulez, par une double... avec un double guide, le tâtonnement sur des études de cas et puis un certain nombre de questions plus conceptuelles. Très vite, il m'est apparu que pour saisir précisément le concept de décision collective, il fallait prendre en compte le fait qu'en général, quand on prend une décision, on s'attend à ce qu'elle soit appliquée. Bien entendu, ça n'est pas toujours le cas, comme dans toutes les affaires humaines. Mais il y a l'idée d'une obligation qui surgit. Si on prend une décision et puis qu'on ne l'applique pas, on a le sentiment qu'en fait on n'a pas pris une décision, si vous voulez. Mais il fallait aussi parallèlement faire un travail sur toute l'état de la connaissance dans différentes disciplines, sur ce qu'on appelle plus lâchement décision collective.
Alors avant d'entrer dans le vif de certains exemples de ce que vous appelez aussi les règles d'arrêt de parce que c'est ce modèle que vous proposez et vous arrêtez sur un certain nombre de cas passionnants dans la deuxième partie du livre, peut-être pourrait-on rester un instant sur les enjeux théoriques qui me semblent importants, parce qu'au fond il s'agit de construire une voie pour les sciences sociales adosser, articuler une certaine philosophie de l'action, qui sont capables de réfuter d'un côté certains modèles de la science économique et de l'autre certains modèles de la philosophie politique, Philippe Urfalino.
Oui, c'est-à-dire que essayer de comprendre ce qu'est une décision et plus largement une décision collective touche deux enjeux qui ont travaillé dans les dernières décennies la philosophie et les sciences sociales. C'est la conception de l'action ou de la rationalité pratique, c'est-à-dire la logique de nos actions, et c'est d'autre part la politique. Alors, la conception de la politique, il se trouve que quand on parle de décision collective, il y a une discipline qui s'impose, c'est l'économie. Un certain nombre d'économistes assez géniaux, comme Kenneth Arrow, Duncan Black, ont proposé finalement le seul schéma, le seul cadre théorique qui est vraiment en usage en matière de décision collective. Dans les années 50, cela a eu un succès considérable, une influence considérable dans la science politique de langue anglaise, par exemple. Et étant économistes, ils ont un modèle très précis de l'action qui est simplement celui de l'action instrumentale, qui est évidemment très important. Mais du coup, ils ne pensent la décision collective que comme un problème d'agrégation des préférences. C'est déjà compliqué, et ils ont fait une œuvre très utile. Et donc, la décision n'est vue que comme le problème de l'agrégation des préférences des participants et comme un problème de comparaison entre les options, comme je le disais tout à l'heure. Dès lors, mais du coup, cette vision, si vous voulez, de la décision collective tend à assimiler la dimension politique, celle des enjeux de la décision collective, a un problème d'ajustement et un problème finalement d'ajustement des intérêts. On est dans l'économie. Il n'y a pas la notion de bien commun, par exemple. Deuxième aspect, c'est l'action. La vision économique de la décision collective met complètement de côté le problème de l'obligation. Et pour comprendre cette dimension normative de la décision collective, il fallait que je m'appuie sur des éléments de philosophie politique et de philosophie de l'action. Mais là, je risquais de tomber, et c'était une inclination normale, vers la philosophie politique habermasienne ou vers les travaux de sciences politiques qui s'inspirent d'Habermas, parce que c'est une très grande philosophie et d'une très grande qualité, mais il me semblait qu'elle ne me donnait pas les éléments, d'autant qu'elle tendait à faire disparaître la décision dans la délibération. Elle tendait à privilégier la formation d'un horizon commun, la formation d'un consensus. Or, il y a bien sûr des décisions collectives qui peuvent s'appuyer sur une convergence des opinions, mais la plupart d'entre elles se réalisent malgré des désaccords. Et donc il me fallait d'autres instruments pour voir comment on pouvait produire des décisions, aboutir à des décisions qui obligent, malgré les désaccords.
Alors il y a un mot ou un concept clé dans votre modèle, dans votre proposition, Philippe Urfalino, c'est celui d'arrêt. Un arrêt, ça veut dire deux choses en français, ça veut dire stop, et puis ça veut dire, par exemple, une décision de justice qui arrête quelque chose. Et c'est dans ces deux acceptions qu'elle vous intéresse.
Voilà, c'est pour ça que j'ai utilisé ce mot français, qui n'est pas en anglais, ça ne marcherait pas. Le mot français a l'avantage de renvoyer à ces deux aspects, la terminaison d'un processus et la formation d'une obligation. Et cela me sert pour comprendre la décision à partir de la délibération, d'abord au niveau individuel. Si je prends une décision, eh bien, cela veut dire que j'ai d'abord délibéré, parce que s'il n'y a pas de délibération, il n'y a pas de décision. On peut y avoir le tirage au sort, mais justement, c'est pas une décision. Si il y a donc eu une réflexion pratique sur ce que, pour résoudre tel problème, pour atteindre tel objectif, je réfléchis à ce qui est le mieux. Bien. Mais si j'ai pris une décision, ça veut dire que j'ai arrêté de réfléchir. J'arrête. Je pense que je suis arrivé à une conclusion valable. Et donc c'est bien la terminaison de la délibération qui permet la décision. Mais en même temps, il y a décision si cette terminaison a valeur d'obligation. Vers le passé, j'arrête de délibérer pour un moment, bien entendu, je peux reprendre. Et par ailleurs, il faut que j'applique, la décision. Alors ce qui est important ici, c'est que l'arrêt n'est pas toujours l'effet de la délibération. La délibération ne peut pas produire d'elle-même l'arrêt. Elle peut m'inviter, je peux aboutir à une conclusion, j'ai le sentiment, bon ben voilà, j'ai trouvé ce qu'il fallait faire. Mais je peux reprendre ma délibération à tout moment. Il n'y a décision que dès lors que pour certaines raisons qui me sont imposées ou que j'adopte de moi-même, je pense que je décide d'arrêter de délibérer et de transformer l'intention que j'ai formée en une action.
Alors le grand intérêt de cette façon de voir les choses, c'est qu'il vous permet d'approcher, d'appréhender des situations extraordinairement différentes et de sortir d'une forme d'importance trop grande donnée à la question des élections qui pèse beaucoup sur cette notion de délibération et de décision, Philippe Urfalino, que ce soit des élections générales convoquant la population, que ce soit des élections à l'intérieur d'un parlement, par exemple.
Oui, mais bon, c'est tout à fait normal parce que nous avons une expérience de l'élection, du vote, et pas seulement des élections politiques. Dans les universités, par exemple, dans mon univers professionnel, on vote régulièrement. Et donc, comme nous avons évidemment une mémoire qui est courte, à peu près d'un siècle, notre vision spontanée et même savante de la décision collective est fortement informée par l'expérience du vote. Alors, de fait, le vote est une pratique dominante, y compris quand on remonte dans l'histoire ou quand on passe à d'autres sociétés. Néanmoins, si on veut construire un cadre théorique, sociologique pour comprendre la décision collective et que donc on veut comprendre l'ensemble des décisions collectives de l'humanité, des sociétés humaines, eh bien, il faut s'émanciper en partie du modèle du vote. Et à ce moment-là, très vite, on se rend compte que dans l'histoire, dans de multiples de sociétés, mais y compris dans les nôtres, il y a des manières de prendre des décisions collectives qui ne passent pas du tout par le vote, mais qui passent par d'autres modalités qui ne passent pas, par exemple, par l'expression systématique des opinions des uns et des autres, qui ne passent pas par un décompte, ou qui articulent de manière différente le débat, la délibération et la décision.
Alors, un intérêt aussi peut-être du vote, c'est qu'il permet un arrêt relativement simple et codifié, même si parfois il est contesté, on en a un exemple sous les yeux avec ce qui se passe aux États-Unis.
Oui, tout à fait. Donc tout semble plus visible avec le vote, parce qu'il y a un système d'expression systématique des opinions et un décompte un décompte des voix. Mais j'ai tout un chapitre sur un mode de décision qui, à mon avis, n'a pas du tout été perçu par les spécialistes de la décision, qui n'est connu que des historiens d'Ancien Régime, et qui est un mode de décision que j'appelle la réduction des opinions, qui est tout à fait original parce qu'il mélange ce que nous distinguons complètement, à savoir la formation des options en compétition, les arguments, la délibération sur ces arguments et le décompte des voix. Tout se fait en même temps, de manière progressive. Donc c'est radicalement différent. Et enfin, et surtout, il y a des manières de décider qui sont connues, mais à mon avis mal pensées, qu'on appelle les décisions par consensus, ce que j'appelle la règle de non-opposition. Et on le retrouve aussi bien dans des petites sociétés autarciques, dans des villages, dans des tribus, dans toutes les sociétés humaines pratiquement, mais aussi dans des comités techniques, dans nos sociétés contemporaines, voire dans une cour constitutionnelle à un certain moment.
Bah, par exemple, c'est ce que vous aviez pu observer à propos de l'autorisation de mise sur le marché des médicaments. Ça a été longtemps la règle.
Ça a été longtemps la règle. Bon, ils ont changé de mode de décision à cause de la crise du Mediator, mais la manière effectivement qu'avait la commission d'autorisation de mise sur le marché du médicament en France, qu'elle avait de prendre ses décisions d'autorisation, du moins de proposer une autorisation. Les experts écoutaient d'autres experts, les membres de la commission écoutaient des experts qui avaient été consultés, et ensuite les membres de l'Assemblée de la commission discutaient entre eux, et à un moment donné, souvent le président de séance faisait une proposition. Elle était éventuellement contestée ou améliorée par quelques autres membres. Mais la décision n'était pas prise par le biais d'un vote. Il y avait décision dès lors que une proposition du président de la commission n'était plus contestée, ne faisait plus l'objet d'une objection par l'un des membres. Et on est donc dans un mode de décision où il n'y a pas de mode d'expression systématique. Certains membres peuvent ne pas parler pendant la réunion. Il n'y a pas de vote, mais pour autant, il y a bien la formation d'une option, et elle est réputée devenir décision dès lors que plus personne ne s'y oppose. Mais en revanche, si quelqu'un s'y oppose, la décision n'est pas prise.
Mais
Il
alors
faut attendre, il faut faire une autre réunion.
c'est ce modèle d'arrêt, de règle d'arrêt, hein, pour reprendre votre terminologie, qu'on observe aussi bien, là en l'occurrence dans cette commission d'autorisation de mise sur le marché, que dans des villages en Afrique, en Asie, que au Conseil de l'Union européenne, Philippe Urfalino.
Alors oui, alors le cas du Conseil de l'Union européenne, qu'on doit à une étude fantastique de Stéphanie Novak, est encore plus compliqué et montre que ce que j'appelle les règles d'arrêt sont très difficiles à. On ne peut pas en faire l'inventaire parce qu'elles sont sans doute d'une très grande variété. Donc dans mon livre, je ne fais que pointer trois familles, en quelque sorte, trois familles de règles d'arrêt, mais on peut s'attendre à ce qu'il en ait bien d'autres. Et les décisions du Conseil de l'Union européenne, c'est-à-dire des ministres européens, se prennent en fait selon une règle d'arrêt qui mélange deux choses. Et c'est pour ça que personne ne l'avait vu avant Stéphanie Novak, qui a fait une étude empirique extrêmement poussée. Elle mélange ce que j'ai décrit tout à l'heure, la règle de non-opposition et la majorité qualifiée. Alors vous allez me dire, mais comment peut-on avoir une majorité qualifiée alors même qu'il n'y a pas de vote? Eh bien, ça se passe de la manière suivante. La présidence tournante, puisque la présidence change tous les 6 mois, pense à un moment donné que l'on peut aboutir à une décision sur une directive. Alors tout le monde négocie, discute, etc. Selon les traités, il n'y a que deux manières de prendre des décisions. À l'unanimité pour les décisions les plus importantes, et à une majorité qualifiée assez haute pour les décisions un peu moins importantes, mais quand même non négligeable. Hein, c'est pas uniquement des décisions de procédure. De l'extérieur, on avait l'impression que les décisions étaient prises au consensus, tout simplement parce qu'on ne votait pas, on ne voyait pas de vote, du moins, alors même qu'il y avait des machines à voter. Alors comment ça se passe? Eh bien, en fait, les ministres ou leurs représentants respectent parfaitement le traité, à savoir la règle de majorité qualifiée. mais ils ne votent pas. Comment est-ce possible? Eh bien, quand la présidence tournante pense qu'il y a une majorité, c'est-à-dire qu'il y a, selon la règle, un nombre suffisant de pays avec certains coefficients liés à sa population qui composent la majorité qualifiée sur une directive, à la première réunion venue, prévue, la présidence de la Commission dit « Nous avons une majorité qualifiée sur cette directive ». Si aucun ministre ou représentant ministre ne lève la main pour dire « Attendez, mais je ne suis pas sûr qu'on a la majorité qualifiée, est-ce qu'on ne pourrait pas faire un vote ?» Eh bien, si personne ne dit cela, la décision est prise et réputée prise à la majorité qualifiée. Et donc, si vous voulez, ce qui fait autorité, ce qui arrête la décision, ce n'est pas le décompte, c'est la déclaration de la présidence de ce Conseil de l'Union européenne, qui peut bien sûr être contrarié au moment de la réunion. Mais une fois que la réunion est terminée, on ne peut plus revenir en arrière. Et ce procédé, qui est donc un mixte de règles de non-opposition et de majorité qualifiée, permet à certains États de participer au processus et d'accepter des décisions dans lesquelles ils sont minoritaires. Donc la décision est prise, oui.
Excusez-moi, je vous en prie, continuez.
Oui, la décision est prise, est acceptée, mais on ne sait pas qui est minoritaire. Et on a l'impression d'un consensus. Mais c'est pas un vrai consensus au sens où c'est pas ce qu'on entend habituellement par consensus, c'est-à-dire une sorte d'unanimité. C'est en fait, il y a en fait simplement la majorité qualifiée qui est requise.
On voit comment
la complexité de l'affaire.
Oui, on voit comment on pourrait entrer dans cette grande famille d'arrêts sans vote, par exemple des procédures de désignation par acclamation de leaders politiques qui ont pu exister en Grande-Bretagne notamment, et beaucoup d'autres choses. Vous parliez tout à l'heure de cette deuxième famille qui est celle de la réduction des opinions, en disant on l'a un peu oublié, elle a joué un rôle important à d'autres périodes historiques et dans l'Église par exemple, mais elle fait, à bien des égards, je trouve, penser à ce qui peut se passer à un certain moment de la procédure et de la discussion dans les jurys de prix littéraires, Philippe Urfalino.
Ah, je n'ai jamais participé à un jury de prix littéraire, mais ce serait tout à fait intéressant. C'est-à-dire que dès lors qu'il y a... je pense qu'on rencontre assez facilement ce mode de décision qui est donc très situé historiquement, dès lors qu'il y a des pratiques de vote oral. J'ai retrouvé des formes proches, par exemple, dans les advisory committees de la Food and Drug Administration, dans l'administration américaine qui s'occupe justement de l'autorisation de la mise sur le marché des médicaments. À une époque, ils pratiquaient le vote oral, c'est-à-dire qu'ils s'exprimaient, et ce vote oral facilite des processus qui ressemblent à ce que j'appelle la réduction des opinions, c'est-à-dire tout en disant, ben voilà, je suis favorable à l'autorisation de ce médicament, mais à tel dosage et pas au dosage qui est proposé. Quelqu'un qui dit cela, non seulement il vote pour une option, mais il est en train de transformer les options en compétition, si vous voulez. Il est en train de transformer les différentes propositions entre lesquelles on doit décider.
De la même manière que dans un jury de prix littéraire, on peut transformer la liste des candidats, des vainqueurs possibles, ce qui est moins possible quand on a affaire à une liste extrêmement formalisée, exemple pour une élection universitaire.
Tout à fait, tout à fait. Mais alors le fait que l'on puisse effectivement modifier la liste des candidats en cours de discussion nous amène complètement dans la réduction des options, dans la réduction des opinions de l'ancien régime.
Alors la troisième grande famille, on va à grands pas dans votre livre qui est d'une grande densité et à la fois d'une grande précision, Philippe Urfalino. Elle concerne des choses qu'on connaît mieux en fait, c'est-à-dire les modes d'arrêt qui font qu'après une délibération, on passe au vote et là, c'est la décision majoritaire qui prévaut.
Oui, oui. Alors oui, le dernier chapitre est consacré à une règle de décision que l'on connaît bien. Donc il n'y a pas besoin de faire une investigation pour en connaître les caractéristiques. Mais en revanche, il est intéressant de se demander pourquoi, et c'est là que je peux insister sur la dimension normative de la décision collective, pourquoi nous respectons la majorité? Pourquoi la minorité doit se soumettre à la majorité? Et là, j'ai eu une chance formidable, c'est que je suis tombé un peu par hasard sur un cas absolument extraordinaire, qui est celui d'un comité universitaire de l'Université de Berkeley en 1950, en plein maccartisme, où c'était le début du maccartisme, et cette commission, ce qu'on appelait le Conseil des régents, je crois, a décidé de licencier les professeurs, ceux qui avaient la ténure, les professeurs titulaires de l'université, qui ne voudraient pas signer une sorte de serment affirmant qu'ils n'étaient pas communistes. Or,
Parmi
parmi les
lesquels
professeurs
Ernst
réfractaires,
Kantorowicz, voilà, oui.
exactement. Et donc Ernst Kantorowicz a écrit un texte sur cette affaire. Donc il a refusé de signer. Et il a quitté l'université. C'est à ce moment-là qu'il est allé à Princeton. Et dans ce texte d'une vingtaine de pages, il explique d'une part pourquoi cette décision est très mauvaise, mais pourquoi elle ne peut pas se prendre à la majorité. Et donc bon, c'est un cas formidable parce qu'il est très rare sur une décision très précise d'avoir en même temps des acteurs qui argumentent très finement sur l'acceptabilité du mode de décision. Parce qu'ici, ce qui est en cause, c'est pas seulement le fait que la décision soit mauvaise, c'est qu'elle puisse être prise à la majorité. Et l'un de ces arguments tout à fait intéressants, c'est que, du moins c'est la conséquence que je tire de son argument, c'est qu'on ne peut pas décider à la majorité à propos de quelque chose qui divise les membres de l'institution qui prend la décision ou qui la divise trop profondément. On ne peut pas à la majorité prendre une décision qui mette en cause les fondements de cette institution. Et l'autre phénomène intéressant que permet d'analyser ce cas, ce sont les situations qui ne sont pas rares où il y a une profonde division des votants, des membres de l'institution, et où finalement les majorités sont fragiles. Bon. Donc la question qui est posée, c'est le caractère contingent de la décision. Si une décision est prise à une petite majorité, on a le sentiment que cette décision, elle est contingente, elle dépend des présents et des absents, à tel moment, à telle réunion. Et donc cela pose de manière très très aiguë la question de à quel titre, la question suivante, c'est à quel titre un simple décompte des voix permet de produire une obligation, fait en sorte que tout le monde doit se soumettre à la décision.
On pourrait là rebondir avec des exemples de référendums qui ne sont pas forcément respectés par la suite, référendums votés à des très courtes majorités parfois, remis sur le métier électoral en quelque sorte. C'est un autre chantier, un autre terrain que je vous propose d'explorer tout à l'heure, tout de suite, Philippe Urfalino, celui de la prise de décision
Oui.
collective dans le monde artistique, un univers que vous connaissez bien pour
Oui.
avoir travaillé également sur ces questions artistiques comme sociologue. On retrouve dans un instant donc Joris Lacoste pour en parler, mais c'est après un extrait du nouvel album du rappeur de New York Navy Blue, 1491.
It's Navy Blue to show us. It takes a lot to do this. Trust. I used to kiss my Saint Christopher, fuck Christopher Columbus. 1491, it's one and done, this shit is fucked up. Sitting in my thoughts, and smoking Dolo in the spot. So many photos on the wall, like most of the times that I was caught in a web that I had spun myself. The damage did a lot, couldn't fortify the troops. Said doo doo doo, the block is hot. I got brothers in the ends though, to whom I miss a lot. They got machetes in their track pants, the Swissy in the sock. Just say a prayer for a black man. I've been feeling down, I couldn't wait to help myself cope. I'm overcome with doubt, stuck in this shit like Velcro. Tell those I care about to delve home, missed it. All the mischief I carry round is hellhole. Structure on a church lid, spire like a mellow. My family came from London off a road called Portobello. Parallel to Ladbroke Grove, I know the way it gets. When he's stepping through a city well known with no regrets. Shoulders ain't for crying on when feelings intersect. I've been feeling baby blue just like my father's cigarettes. I used to kiss my Saint Christopher, fuck Christopher Columbus. 1491, it's one and done, this shit is fucked up. Shit is fucked up.
song of sage, racing to find the days. Baby, I know the way. Take me to where it rains. The rest of me in the flames. My message isn't in vain. That's all that a nigga says.
France Culture, la suite dans les idées, Sylvain Bourmeau.
On parle de délibération et de décision collective avec Philippe Urfalino à la suite dans les idées aujourd'hui, mais on en parle aussi avec Joris Lacoste. Bonjour.
Bonjour.
Je le rappelais au début de l'émission, votre projet, l'Encyclopédie de la Parole, démarré il y a 10 ans, fait l'objet d'un portrait du Festival d'automne cette année, avec encore des spectacles prévus. On en trouvera la liste sur la page de l'émission sur le web. Vous avez entendu Philippe Urfalino. J'imagine que vous êtes dans votre travail au quotidien, dans votre travail d'artiste, confronté à ces prises de décision collectives, sans évidemment, j'imagine aussi, avoir recours au vote, Joris Lacoste.
Oui, bon, moi je travaille beaucoup au sein de projets collectifs comme celui de l'Encyclopédie de la Parole, mais bon, le travail est par nature un art collectif et toute entreprise théâtrale est de fait traversée par la question de la décision, et en particulier dans les dramaturgies contemporaines où le spectacle s'écrit pour une bonne part au plateau avec la participation des acteurs, des actrices, parfois de musiciens ou d'un créateur son, d'un éclairagiste, d'un scénographe, etc. Donc même si les fonctions sont distribuées de façon souvent clairement différenciée, à tout moment il y a des décisions plus ou moins collectives qui se prennent à des échelles différentes. Hein. Ça peut être des questions dramaturgiques très très macro, très structurelles. Donc dans quelle direction on veut faire aller le spectacle, ou est-ce qu'on coupe, ou est-ce qu'on garde telle ou telle partie, ou décisions les plus micro, c'est-à-dire comment prononcer telle phrase ou tel mot, voire telle syllabe. Donc c'est vraiment la question de la décision. Enfin, je veux dire, un projet, un processus de création, ce n'est qu'une suite de décisions. Et quand c'est un processus collectif comme le théâtre, évidemment, la question de la délibération et des modalités de la décision se pose de façon très très concrète, quoi, très très prégnante.
Donc on est loin du modèle du metteur en scène démiurge autoritaire qui décide de tout, qui serait le seul auteur au fond du spectacle. On voit bien que le cinéma est allé chercher ce modèle du metteur en scène et pour insister sur le caractère singulier de l'artiste qui signe le film, alors qu'en fait c'est un processus peut-être encore plus collectif. Donc il y a un décalage entre la réalité de ces prises de décision collectives et puis la manière de mettre en scène, pour le coup, le travail artistique, Joris Lacoste.
Bon, ça, il y a des processus qui sont vraiment des modes des façons de travailler qui sont très très variées selon les artistes, selon les compagnies, selon les projets. Moi, quand j'ai commencé dans les années 90 à travailler comme auteur ou comme dramaturge avec des metteurs en scène ou des chorégraphes, j'étais assez frappé par les rapports d'autorité justement qui s'exerçaient au sein des processus de travail, même avec des artistes qui revendiquaient une certaine pratique collective, voire une horizontalité. Et je ressentais une sorte de dissonance entre un discours politique qui insistait beaucoup sur le collectif, le rhizome, l'horizontale, et la réalité du pouvoir de décision, des modalités de décision qui résidaient quand même toujours en dernier ressort entre les mains d'un seul ou d'une seule, mais il se trouve que c'était plutôt des hommes, qui est celui qui a le dernier mot. Donc on reste encore, je crois, aussi beaucoup plongé dans une sorte de mystique de la création qui donne au maître d'œuvre, à celui qui se donne comme tel, une sorte de légitimité, soit charismatique, soit disons capitaliste, parce que c'est celui qui a trouvé l'argent, qui a organisé le projet, qui a rassemblé les gens, et à laquelle les autres se plient. Donc c'est quelque chose qui me gênait, en tout cas qui me faisait réfléchir à d'autres manières de faire, parce que ça. Disons que le rapport de pouvoir que ça crée, ou le rapport d'autorité, fait qu'on a souvent dans les manières de travailler les plus contemporaines, des projets qui s'inventent, disons, à partir de propositions d'acteurs, d'interprètes, souvent d'après des consignes floues, assez floues, que le chorégraphe ou le metteur en scène a donné. Et on a quelqu'un en face qui dit oui, je prends ça, non, et ça, essaye autre chose, et la plupart du temps sans donner vraiment les vraies raisons de ces choix. Donc c'est vraiment souvent, ça reste encore souvent beaucoup l'artiste, le maître d'œuvre qui, avec sa sensibilité spéciale, reste le référent ultime. Et ça, bon, ça demande une aux interprètes une confiance, une sorte de confiance un peu aveugle, presque religieuse, qui me semblait aller à rebours d'un engagement politique. Et puis surtout, je voyais que ça bloquait ou ça empêchait des apports au processus qui auraient pu être ceux des interprètes s'ils avaient été mieux informés des enjeux. Et sans doute parce que moi j'ai une sorte de foi dans les vertus de la coopération, au sens où je crois qu'une pièce sera d'autant plus riche et complexe qu'elle arrivera à composer des énergies singulières. Et donc j'ai commencé à réfléchir avec certains camarades dans les collectifs que j'ai commencé à créer, à animer par la suite, à trouver d'autres manières de travailler qui puissent impliquer davantage l'ensemble des participants au processus.
Philippe Urfalino, comment vous regardez cette question de la décision collective dans le domaine artistique où effectivement il y a une mystique du créateur solitaire, tout puissant et qui demanderait aux interprètes d'exécuter simplement sa décision?
Oui, alors il peut y avoir cette mystique, mais il peut y avoir une autre mystique qui est plus horizontale, comme disait Joris Lacoste. Enfin, c'est pas une mystique, c'est une conception. Mais là, Joris Lacoste nous introduit un univers où beaucoup plus complexe, parce que dans un projet artistique, il n'y a pas une décision, il y en a toute une série. On est dans ce qu'on appelle les structures projet qu'a étudié Pierre-Michel Minguer. Et donc il y a des phénomènes d'engrenage, si vous voulez. Il faut à plusieurs étapes prendre des décisions dans la conception de l'œuvre. Bon, ça c'est une première dimension qui accroît la complexité du phénomène. Et puis aussi, dans la description très fine de Joris Lacoste, j'entends les différents degrés d'articulation entre des phénomènes qui peuvent être simplement hiérarchiques, voire dictatoriaux, des phénomènes d'autorité, c'est-à-dire que, comme dans le monde intellectuel, ou un peu partout, dans le monde artistique, on prête de l'autorité à certaines personnes, parce qu'elles ont des qualités, elles ont une capacité à produire une performance, et puis aussi, et surtout, c'est le point sur lequel Joris Lacoste insiste, et puis aussi d'avoir des phénomènes d'ajustement mutuel autour de la conception de l'œuvre et de son exécution, et le modèle vers lequel il est allé visiblement de manière très très consciente, c'est un modèle qui fait en sorte que l'autorité puisse exister, mais ne se transforme pas en hiérarchie, et que l'emporte le plus possible les ajustements mutuels. La difficulté, je pense, Joris Lacoste pourra confirmer ou affirmer, la difficulté, c'est que ces ajustements mutuels se produisent l'accord et produisent aussi la détermination, c'est-à-dire l'arrêt. C'est qu'en bout de course, on a quelque chose qui est à peu près déterminé.
Joris Lacoste.
Oui, en fait, c'est l'autre écueil, disons, symétrique, l'autre pôle, c'est le fonctionnement complètement horizontal que j'ai aussi connu dans de façon plus périphérique, mais dans des expériences de collectif qui se voulaient parfaitement horizontaux, où la décision là se faisait systématiquement par délibération et par consensus, voire parfois par vote. Ça peut arriver, même si c'est très très rare. Et j'ai trouvé ça en général aussi extrêmement frustrant, mais d'une autre manière. Bon, d'abord, c'est de façon plus assez personnelle, c'est une question de tempérament, parce que j'avais peut-être pas la patience d'endurer des discussions infinies qui partaient souvent dans tous les sens, et donc il était assez difficile de faire émerger des problèmes clairs et encore moins des solutions. Ensuite, parce que je me rendais compte que ça n'annulait pas forcément les effets d'autorité ou de pouvoir, parce que c'est quand même souvent celui ou celle qui parle le plus fort ou le mieux qui l'emporte. Et enfin, parce que on arrive souvent à des solutions de compromis. Donc des décisions qui sont des décisions moyennes, et bon, on imagine bien que c'est peut-être pas la meilleure manière de créer des grandes œuvres. Mais donc avec des débats qui s'articulent souvent en termes de préférence ou de goût, alors qu'il me semblait clair qu'une décision forte devait être au-delà de ces questions, disons de goût, avec il fallait trouver des nécessités qui n'avaient pas à voir avec les préférences individuelles des uns et des autres. Et donc les solutions qu'on a essayé de chercher avec les gens avec qui je travaillais à ce moment-là, c'était de une manière d'échapper à ces doubles problèmes, c'était de recourir à une explicitation la plus générale, de trouver des moyens d'énoncer de façon très très formelle et parfois même de façon écrite les enjeux du travail et les axes de création, les axes de travail qu'on se proposait d'effectuer ensemble. Et on a développé comme ça toute une méthode, on peut dire, tout un lexique de termes qui nous permettait d'une part de parler de la même chose, ce qui est très important et qui est assez souvent difficile dans la discussion collective, et d'autre part d'avoir une sorte de référent collectif qui était la chose à laquelle qui nous permettait de juger, qui nous servait de critère pour évaluer la pertinence des différentes options que les uns et les autres proposaient. Et c'est comme ça qu'on, voilà, dans l'explicitation, qu'on peut finalement énoncer ensemble des propositions et chacun peut participer d'une façon, disons, beaucoup plus partagée à un processus. Ce qui ne règle pas la question de l'arrêt, parce qu'il y a quand même toujours la question de comment on décide, comment ça se tranche, mais... Et là, c'est peut-être une chose assez différente des processus politiques qu'analyse Philippe Urfalino, c'est qu'il y a quand même toujours cette notion d'essayer au théâtre, et que c'est ce qui marche en fait qui l'emporte. C'est-à-dire qu'on essaye
parfois
les différentes options.
La question de l'arrêt, elle se règle toute seule avec la pendule, hélas, Joris Lacoste et Philippe Urfalino, puisque on arrive au terme de la suite dans les idées. Merci à vous, Joris Lacoste. Je rappelle ce portrait au Festival d'automne. On trouve les dates sur la page de l'émission. Et votre livre, Philippe Urfalino, Décider ensemble, qui paraît aux éditions du Seuil. On trouve la référence bibliographique sur cette page de la suite dans les idées où vous pouvez écouter l'émission et vous abonner au podcast. C'était la suite dans les idées. Sylvain Bourmeau, attaché de production, Marie Dalki à la technique, aujourd'hui Pierre Faucillon, et à la réalisation Franck Lilin.